Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.
Chers amis, bienvenue à toutes et à tous, c'est le débrief de Radio VFM et Foot Normand, 21e épisode aujourd'hui. On va revenir évidemment en long, en large et en travers sur la 30e journée du championnat de France de Ligue 2 qui nous a offert un derby magnifique. C'était au stade Océane du Havre samedi après-midi, derby conclu par cette non moins magnifique victoire du stade Malherbe de Caen, 4 buts à 2 d'Acosta, Deminguet, Jeannot et à nouveau Deminguet contre début de Thiaré et Dablin pour les Havrais. Émission que j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle fois aujourd'hui avec mon coéquipier Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
C'est un vrai plaisir de se retrouver pour revenir sur ce derby qui a marqué le football en Normandie au stade Océane samedi, le 21e débrief de Radio VFM et Foot Normand. Ça commence maintenant. Un 21e épisode auquel on va donc revenir, sur lequel on va revenir évidemment long, en large et en travers, je le disais, sur le derby normand, remporté ce week-end par le stade Malherbe 4-2 chez le voisin Havrais. On a un invité avec nous, et quel invité aujourd'hui. Il a joué au stade Malherbe, notamment, mais pas que, il est passé par des clubs prestigieux comme l'Olympique Lyonnais ou encore le Paris Saint-Germain, sans oublier Lille, Saint-Etienne, Nice, Guingamp, Amiens, etc. Mathieu Bonnemer est avec nous, salut Mathieu.
Salut les gars.
Mathieu, cette formation cannaise, elle a pris un malin plaisir à gâcher le 150e anniversaire du HAC. On reviendra d'ailleurs plus longuement sur cet anniversaire dans la deuxième partie du débrief. Mathieu, on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait pas s'il y en a qui ne le savent pas, mais quand même, peut-être les plus jeunes d'entre nous, vous êtes un ancien joueur du stade Malherbe. C'est votre club formateur avec lequel vous avez disputé une petite centaine de matchs chez les pros en D2. À l'époque, c'était au début des années 2000. C'est encore à l'époque où je me prenais moi-même en photo, côté de Mathieu Bonnemer. Aujourd'hui, Mathieu, depuis la retraite de joueur en 2020, c'était hier, hein, quasiment, vous officiez comme consultant actuellement sur Amazon Prime et sur RMC Sport. Bien entendu, vous suivez toujours le stade Malherbe, d'autant plus que votre fils cadet, Timéo, fait partie de l'effectif des 17 nationaux du club. Mais vous suivez aussi le Havre, où évolue Mathéo, on en dira un mot tout à l'heure. Il évolue avec la réserve ou en U19, et d'ailleurs, on pense fort à lui parce qu'il est actuellement blessé. Mathieu, vous l'avez forcément suivi ce derby entre le Havre et le stade Malherbe samedi?
Ah, je pouvais pas le rater. J'ai eu la chance d'avoir fait mon déplacement juste avant, donc j'ai pu me poser devant la télé à 15h pour le coup d'envoi. C'était un match important, comme tu l'as dit Christophe, c'était 150 ans du Havre, donc il y avait une belle fête, il y avait du monde au stade, et puis pour les deux clubs, c'était une façon aussi de changer un peu le contenu de la saison. Et au final, c'est Malherbe qui a fait un gros match. Mmh.
Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la prestation du stade Malherbe samedi après-midi?
Bien, très très bien. Ils ont été conquérants dans le jeu. Après, c'était un bon match d'ensemble. Hein. Dans l'ensemble, c'était un bon match de la part des deux équipes quand même. C'était un match assez ouvert. Des fois, les derbies, c'est 0-0, il y a beaucoup de coups, etc. Là, c'était un match ouvert, il y a eu beaucoup de buts, quelques erreurs aussi, évidemment. Mais bonne ambiance, c'était vraiment, pour moi, un gros match de Ligue 2. Des fois, la Ligue 2, elle est pas toujours top les matchs, mais là c'est un bon match festif et agréable à regarder. Mmh.
Est-ce que ça confirme aussi un petit peu que ce stade Malherbe est quand même sur la voie de la progression depuis quelques mois maintenant?
Oui.
Vous partagez ce point de vue?
Oui, ils sont mieux. Après, il y a eu un changement de coach, il y a eu un effectif avec des joueurs qui sont arrivés tardivement, il y a eu des joueurs qui se sont blessés plus ou moins gravement, changement de système de jeu parfois aussi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Avec des attaquants qui marquent quand même pas mal de buts, D'Acosta qui revient très bien, Alex Mendy qui fait une grosse saison. Mais voilà, après, moi j'aime beaucoup le milieu de terrain, que ce soit Deminguet, Le Penon, et je suis content parce qu'ils sont formés au club aussi tous les deux. Mais ça fait pour moi partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. Quoi.
Ouais, donc on précise hein, sur l'attaque, c'est vrai que le stade Malherbe s'appuie sur la quatrième meilleure attaque de Ligue 2, 42 buts inscrits, c'est assez impressionnant. Ça fait, je crois que c'est la quatrième fois sur les 7 dernières journées que le stade Malherbe met 4 buts, donc c'est vraiment intéressant. Et donc depuis on va dire depuis le déplacement à Auxerre, c'était la 17e journée début décembre, hein. C'est un peu considéré par Stéphane Moulin comme le match un petit peu fondateur de cette saison. C'était le premier où il est passé en 3-5-2. Et ben tout simplement, Malherbe, c'est le cinquième bilan de Ligue 2, 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc c'est vrai que voilà, ça fait quelques temps qu'il en parle de ses progrès, Stéphane Moulin. Et on va dire que cette semaine qu'ils viennent de vivre, ça les a matérialisés au niveau du classement.
Là, la fin de saison doit servir parce que maintenant ils sont maintenus, ils ont mis tout le monde derrière. ils pourront pas monter ni jouer les playoffs parce que l'écart pour moi il est trop grand. Il faut que cette fin de saison elle serve pour la saison prochaine, commencer à avoir les automatismes, savoir qui reste pas, pouvoir préparer aussi les transferts, se servir des 2 mois qui restent pour gagner du temps, parce que là tu t'es acheté une fin de saison plutôt intéressante, sans pression, ni en haut ni en bas. Donc mettre en place les choses que Moulin veut faire, que Piqueux veut faire aussi pour la saison prochaine. Et anticiper tout ça pour que l'année prochaine, Malherbe joue la montée, tout simplement.
Il y a deux choses là dans tout ce que vous venez de dire. Donc forcément, c'est effectivement, la fin de saison sera beaucoup moins stressante que celle de l'année dernière. Les amoureux du Stade Malherbe vont surtout pas s'en plaindre, je pense pas. Est-ce que là, par exemple, même si ça donne droit à strictement rien, aller chercher la 6e place, donc aujourd'hui qui est détenue toujours par Le Havre, qui a 2 points, ça peut être un petit leitmotiv en interne pour dire faut vraiment qu'on matérialise cette montée en puissance par quelque chose de concret?
Vous l'avez dit, il y a 2 choses. Alors déjà, le classement est toujours important parce qu'il y a un petit peu plus de droits TV, etc. Mais surtout, essayer de terminer devant Le Havre. Je pense que c'est le challenge régional, c'est important aussi pour les supporters de Caen, pour les joueurs, de terminer devant Le Havre. Surtout quand tu vois où il y a 2-3 mois tu étais par rapport à eux. C'est-à-dire que tu as fait une deuxième partie de saison qui sera intéressante. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, ces 2 mois doivent servir aussi d'expérimentation pour la saison prochaine. Est-ce que le système, tu le gardes? Voilà, trouver les bons joueurs, réfléchir aux joueurs que tu pourras amener pour compléter ça. Parce que normalement, tu as quand même une bonne base de joueurs qu'il faut essayer de conserver. Mais voilà, est-ce que Da Costa, par exemple, tu vas le conserver? C'est compliqué. Et ainsi de suite, réfléchir, anticiper. Ce match-là et les dernières semaines te permettent d'avoir du temps par rapport à d'autres clubs pour préparer la saison prochaine.
Ça peut aussi être la saison des regrets, Mathieu, parce qu'on l'évoquait, il y a cette trajectoire diamétralement opposée entre les deux formations. Il y a encore quelques semaines, les Havrais étaient à la lutte pour la 5e place. Alors, on pourra toujours dire que mathématiquement, ça reste possible, mais il y a quand même 10 points aujourd'hui, donc ça paraît compliqué, 10 points entre Le Havre et Sochaux. Et alors que Caen était englué dans les profondeurs du classement, et aujourd'hui, on en est à se dire que le challenge de fin de saison pour le Stade Malherbe, ça peut être de terminer devant Le Havre. Alors, d'un côté, effectivement, ça laisse augurer d'un dernier challenge pour cette fin de saison. D'un autre côté, ça peut quand même être la saison des regrets.
Oui, alors c'est un grand mot, la saison des regrets, parce que quand tu vois comment t'es parti, début de saison était vraiment compliqué. Tu faisais pas, tu prenais pas de points, tu faisais pas toujours des mauvais matchs, mais tu gagnais pas, tu as eu des cartons rouges, des blessures, des scénarios au contraire. Là, depuis quelques semaines, j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux. Maintenant, je suis pas sûr, quand je vois les autres équipes devant, que Malherbe cette année était vraiment armée pour jouer la montée. Quand tu vois Sochaux, quand tu vois Auxerre, quand tu vois même Ajaccio, le PFC, surtout Toulouse, pour moi c'est un cran au-dessus sur l'ensemble de la saison. Maintenant, quand tu regardes depuis 2 mois, tu dis ils auraient pu faire mieux, ça c'est une certitude. Mais quand tu te rappelles il y a 8 mois où tu étais et que tu te maintiens de justesse, tu dis bon voilà, là il y a une fin de saison qui est tranquille, on va pouvoir travailler, ça va permettre de faire jouer des jeunes aussi, de continuer à développer ton centre, tu as des générations qui arrivent derrière qui sont très intéressantes. Voilà, le projet de Malherbe, ça doit être ça. Moi, ce qui pas ce qui m'énervait, mais où j'étais déçu depuis quelques saisons, c'est que je voyais pas ou peu de jeunes du centre jouer, alors que tu sais que tu avais des générations qui étaient très très douées. Et tu as beaucoup de joueurs qui sont passés à la trappe pour amener d'autres joueurs un peu plus expérimentés, avec des gros salaires, et qui faisaient pas le travail, tout simplement.
Oui, effectivement, il y a pas mal de jeunes formés au club. Vous en avez mentionné 2, forcément, qui sont en pleine lumière en ce moment. Et c'est bien normal parce qu'ils font des matchs assez énormes. Hein. C'est Joe Le Penant et Jesse Deminguet. Bon, Jesse Deminguet, il a fait un gros match. Et en plus, il a agrémenté ça avec des stats, 2 buts, une passe D. C'est aussi important dans cette configuration de Malherbe, surtout depuis qu'il n'y a plus Caleb Zadisseri, hein, qui était à un moment le détonateur. Vous en parlez aussi, la clé pour Malherbe, pour faire quelque chose éventuellement la saison prochaine, ça va être de garder ses meilleurs éléments. On a parlé un petit peu de Nuno, hein, Da Costa, qui est seulement prêté par Nottingham Forest, donc ça va être très compliqué de le conserver. Mais pour Joe Le Penant et Jesse Deminguet, qui sont 2 joueurs en fin de contrat en 2023, donc dans un an, on a envie de dire que ça sera aussi très compliqué de les garder aussi.
Ça va être une bonne question.
Merci de l'avoir posée.
Non, c'est une bonne question, parce que quand tu arrives un an à la fin de ton contrat, c'est là où il y a des grosses discussions. Est-ce que je prolonge, est-ce que je m'en vais? Est-ce que le club récupère un petit billet? Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quelle est la situation financière du club? Quelle est l'ambition du club? Est-ce qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de refuser une grosse offre pour Le Penant? Parce que c'est pour moi lui qui a la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Si vous vous souvenez, les dernières, ils ont vendu BKBK au Locomotive, parce que c'est une somme que tu peux pas refuser, tout simplement. Voilà. Après, c'est... En tout cas, il faut que Malherbe, à un moment donné, construise un effectif avec des jeunes du centre. Aujourd'hui, c'est le club de Nantes, t'as Demangué, t'as Traoré qui est régulièrement là. Et t'en as d'autres qui vont arriver, comme je disais tout à l'heure, Bassette, Gomis et ainsi de suite, qui vont monter petit à petit, Otumji, etc. Mais est-ce que tu les gardes? Est-ce que certains, c'est une plus-value financière, donc tu les vends pour faire marcher et ton centre et ton équipe première? Voilà, c'est un dilemme. Après, ça dépend aussi de la capacité financière des actionnaires. Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Et c'est vrai que la discussion avec Le Penant et Domingue, là, dans les mois qui arrivent, elle va être intéressante et pas simple à mon avis.
Mathieu, je reviens un instant sur ce derby normand au Stade Océane samedi. Il y avait une ferveur populaire incroyable, un petit peu plus de 18 500 supporters. On a rarement vu Océane comme ça. C'est d'ailleurs un record d'affluence pour un match de championnat du Havre hein, dans ce Stade Océane qui certes a accueilli au moment de son inauguration l'équipe de France face à l'Uruguay, mais pour un match du HAC, c'est un record d'affluence. On l'a dit, ça s'explique notamment par le 150e anniversaire du Havre que les Canets ont d'ailleurs bien gâché. Mais cette ferveur populaire, on la retrouve, Mathieu, particulièrement à Caen. Il y avait près de 2000 supporters canets dans le parcage du Stade Océane. Ils ont mis une ambiance incroyable, hein, on va pas se mentir, ils ont aussi gagné le match des tribunes. Ce Stade Malherbe, Mathieu, il possède quand même quelque chose de rare en Ligue 2, parce que quelles que soient les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai envie de dire, il a ce qui ne s'achète pas, ce club, c'est un public, c'est une incroyable ferveur populaire.
Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Alors déjà, j'étais content de voir le Stade Océane quasi plein, parce que c'est un super stade, et pour la région normande, c'est important qu'il y ait des matchs, qu'il y ait des affiches comme ça avec du monde, parce que c'est une région de football, donc c'était top. Maintenant, concernant Malherbe, je suis pas surpris. Comme tu as dit, j'y ai joué. Alors maintenant, c'était presque au siècle dernier, ça remonte un peu. Mais tu as toujours du monde au stade. Tu as toujours eu du monde en déplacement. C'est Malherbe, c'est-à-dire que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2. Alors en Ligue 1, t'es quasiment à guichet fermé tous les week-ends. Mais en Ligue 2, tu peux faire 10, 12, 14, 15 000 si ça marche un peu, si tu joues la montée, etc. Et puis tu peux remplir le stade contre le Havre ou des grosses affiches. Quel club aujourd'hui en Ligue 2 est capable de faire ça? Très peu. Très peu. Moi, j'ai toujours dit, les joueurs contre qui je jouais me parlaient toujours de Malherbe en bien. La qualité de vie, une ville footballistique, une région qui aime bien le foot, une qualité de vie agréable, des infrastructures, un stade qui est quand même bien, un centre d'entraînement qui est intéressant. Voilà, ça a toujours été un club bien aimé par tout le monde.
Et donc le stade d'Ornano qui se fera peut-être... Peut-être pas le plein, mais qui sera peut-être copieusement gardi le dimanche 10 avril pour la demi-finale de Coupe Gambardella contre le Stade Rennais. Une première depuis 20 ans. Mathieu, vous, à votre époque, c'était la finale du championnat de France que vous aviez atteint avec les 17, hein, c'est bien ça?
Exactement, ouais. Nous, c'était 82-83, on a fait finale de play-off, on a perdu contre Lyon, et 83-84, génération Bruno Grougy, Siga Maridiara, Bebel Soimier, Ronald Zubar notamment, et j'en oublie plein malheureusement, eux, ils ont fait finale de Gambard contre Metz. Ils ont perdu aussi.
Avec un match disputé à Issoudun, Mathieu, je sais pas si tu t'en rappelles.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
Non, mais ça m'a marqué parce que, même Mathieu, tu peux pas savoir ça. J'étais dans le bus, figure-toi, aux côtés d'un certain Benoît Costil pour aller supporter Mathieu Wodemer. Il y a quand même des histoires exceptionnelles dans le foot.
On précise que c'était pour supporter, hein, pas pour jouer.
Ni pour commenter à l'époque. pour commenter. J'avais pas encore touché mon premier micro.
Tu sais que j'avais fait la finale de play-off le dimanche et j'avais repris avec les pros le lundi.
C'était déjà la grande classe à l'époque.
Ouais. Mais alors, à travers l'exemple de Mathieu, même si Mathieu forcément c'était forcément le haut du panier, mais on va basculer là un petit peu sur la Gambardella que Mathieu suit aussi avec attention. Mais ça a quand même une signification quand on a des générations qui atteignent des finales de championnat de France ou de Coupe Gambardella. On voit avec les noms qu'a énuméré Mathieu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez quand même des générations où vous avez potentiellement 3, 4, 5, peut-être même plus de joueurs qui ont le niveau pour passer professionnel. Et c'est pas anodin quand même pour un club comme le Stade Malherbe.
Non, mais Malherbe a toujours été un grand club formateur. Tout le monde le sait. Il y a toujours eu des éducateurs de qualité. Alors moi, à mon époque, ça a été Pascal Théo, Nasser Largué, Laurent Lejean, Philippe Tranchant, Christophe Point. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Ballon, Nicolas Seub, Cédric Angebar et ainsi de suite. C'est des gens qui ont évolué au club aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Malherbe doit être un club formateur. Ça fait partie de son ADN. Et ce que j'ai regretté, c'est la saison. C'est-à-dire que vous avez fait, si je ne dis pas de bêtises, au moins une finale, mais je crois que c'est quasiment une demi-finale et deux finales en U19, il y a 3-4 ans. Il n'y a pas ou peu de joueurs qui ont joué en pro.
Très peu, non.
Là, tu vas faire une demi-finale de Gambard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Stade Rennais, c'est une grosse équipe. Si tout le monde joue, il y aura du monde. Voilà, ça va être un gros choc, parce que Malherbe aussi a une belle équipe et ça risque d'être un super match à aller voir. Mais la finalité, c'est combien de joueurs vont pouvoir passer au monde supérieur, c'est-à-dire jouer avec les adultes et après avec la Ligue 2. Comment tu les amènes au haut niveau? Elle est là, la finalité. Parce qu'après... c'est pas parce que tu vas aller en finale de Gambard ou gagner une Gambardella que les 16 ou 18 joueurs vont finir professionnels. Ça c'est pas vrai. Mais en général, ça veut dire quand même que tu as plus de qualité sur cette génération-là que sur d'autres. Mmh.
Vous qui regardez pas mal aussi tout ce qui se passe chez les jeunes, hein, encore une fois on le rappelle, hein, vos deux fils sont pensionnaires de centre de formation, l'aîné Matteo Havre et donc le cadet Timéo est à Caen. Je crois d'ailleurs qu'il était titulaire ce week-end, hein, sa première titularisation à domicile si je me trompe pas, si Monsieur Ballon m'a donné les bonnes informations.
Ouais, elle avait joué à l'extérieur une fois et elle a joué à domicile.
Voilà, donc vous êtes bien placé de par votre vécu de joueur et aussi votre expérience de père de famille pour savoir ce qu'il en est dans les centres de formation. Cette génération de Malherbe là, elle a vraiment quelque chose en plus chez les jeunes au niveau Gambard.
Elle est solide. Alors après sur le match de Rennes, il faudra voir si Traoré joue ou pas. Mmh. Il redescend pas toujours et ça peut changer la donne sur un match comme ça. Parce qu'en face, les attaquants de Rennes, notamment Tell ou Samaké, c'est des mecs qui jouent au-dessus, qui ont l'habitude de jouer même en Ligue 1 pour Tell. Donc ça sera une confrontation très intéressante. Après, ils ont un finisseur incroyable qui s'appelle Bassett. Ils ont un autre attaquant qui, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, est l'avenir du Stade Malherbe, c'est Gomis. 2006. Donc qui joue 2 ans avec des mecs qui ont 2 ans de plus que lui, puis c'est 2004 cette année à Gambard. Voilà. Non, il y a des joueurs intéressants. Franchement, il y a une génération qui est intéressante. Il y a un coach que je connais bien qui a cette philosophie de la gagne aussi, qui a fait plusieurs montées avec Malherbe. Monsieur Seub. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de mystère dans le foot. Le coach, il sait gagner. Il sait faire des choses. Et voilà. Il emmène les autres éducateurs et puis il emmène les joueurs avec lui vers une belle épopée.
On peut même presque dire, hein, même si je sais qu'il aime pas trop qu'on le mette en avant, Nicolas Seum, mais il emmène quasiment tout un club, hein, derrière lui, de par l'aura qu'il a et qu'il a gagné au cours de ses 20 ans de carrière avec Malherbe. Voilà, forcément, c'est faire une demi-finale de Gambard avec Nicolas Seum sur le banc, c'est pas la même chose qu'avec un autre éducateur, forcément, aux yeux des supporters notamment.
Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire. Moi, Nico, j'ai vu arriver en 2001 avec Cédric Angebar. Voilà, 20 ans après, ils sont toujours au club. Et c'est important pour les clubs. Parce qu'ils peuvent raconter l'histoire de Malherbe depuis 20 ans.
C'est vraiment important, cette culture des anciens, qui des fois n'est pas toujours bien compris. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui par les dirigeants de Malherbe, mais par certains dirigeants dans le monde du foot. Cette culture des anciens, des fois...
Il y a des clubs où ça n'existe pas, tout simplement. Il y en a un que je ne vais pas citer, parce que ça me fait mal au cœur quand j'en parle. Mais surtout, c'est des gens compétents.
Oui, alors là, le critère numéro un.
C'est pas, ils sont pas aujourd'hui, Nicolas Seub, il n'est pas au poste où il est à Malherbe parce qu'il a joué 20 ans. Voilà, parce que c'est une personne qui est compétente, il a de l'aura, il a du charisme aussi, il a une expérience, il a une façon de voir le football qui est intéressant, il a une pédagogie aussi, parce qu'avec les jeunes, c'est pas la même chose qu'avec des professionnels. Voilà, le critère numéro un, ça doit être quand même les compétences, après l'histoire avec le club et comment transmettre l'histoire de Malherbe, parce que Malherbe est un club, alors oui, c'est pas le plus grand club de France, mais c'est un club qui a une histoire, qui est là depuis très longtemps, qui a formé des jeunes, qui a eu des bons résultats, qui a côtoyé la Ligue 1 très régulièrement, et qui doit, par rapport à son histoire, sa infrastructure et sa qualité de formation, de retrouver la Ligue 1 à court terme.
Mathieu, pour finir cette émission, un petit mot sur la relation que tu entretiens forcément avec les deux garçons, parce que c'est quand même assez rare d'avoir été footballeur professionnel. Déjà, d'en avoir un qui suit les traces de son papa, c'est un fait suffisamment rare, mais d'en avoir deux, ça relève quasiment de l'exception. On le disait tout à l'heure, il y a Timéo Le Canet, Matteo le Havre, qui est actuellement blessé. On pense voir à lui, on aurait beaucoup aimé le voir sur la pelouse du Stade Pierre Comte pour un Vire Le Havre en National 3 le week-end prochain. Hélas, il ne sera pas là. Tu non, les accompagnes presque au quotidien, tu leur donne évidemment, j'imagine, quelques conseils sur leur saison, sur leur choix de carrière aussi.
Choix de carrière, en étant honnête, non. Voilà, je les accompagne pour pas qu'ils fassent d'erreurs ou moins d'erreurs que moi j'ai pu en faire dans ma vie. Par exemple, Matteo, son choix, ça a été d'aller au Havre, voilà, pour diverses raisons, mais c'est lui qui a fait le choix. Comme je lui ai dit, il faut que tu fasses le choix de ton club, comme j'ai dit à Timéo, et lui, Timéo, c'est Malherbe. Voilà. Il voulait jouer au Stade Malherbe, Matteo voulait jouer au Havre. Après, ce qu'on fait, c'est que bon, tous les matchs de Matteo sont filmés, donc je peux les regarder dès le lundi matin, le lundi soir on s'appelle, on a des briefings, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, je suis très 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 dur avec eux, très exigeant. Timéo, c'est pas toujours filmé, donc je reçois de temps en temps les images par match de ballon. La semaine dernière, j'ai vu 2-3 matchs. Hier, c'était pas filmé apparemment, donc j'aurai pas le match cette semaine. Voilà, c'est de les faire progresser. Après, le plus important, c'est qu'ils soient contents dans leur vie, qu'ils soient heureux de jouer au foot, parce que je le dis, je le répète encore une fois, moi, c'est ce qui, c'est ce qui rythme ma vie depuis que je suis né quasiment. Et il n'y a pas mieux sur Terre que de se lever le matin pour aller jouer au foot. Donc j'essaie de leur faire comprendre ça, que c'est un métier qui est exigeant, qui est difficile, qui a beaucoup de sacrifices parce qu'ils n'ont pas d'adolescence, mais que la finalité, elle est extraordinaire, tout simplement.
Et un dernier mot, peut-être sur toi, Mathieu, effectivement, tu es un passionné de foot.
J'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire « vire mon poste cette année
». On va laisser Hébreux, c'est une autoroute qui se dresse devant les Hébreuxiens.
On va le faire cette année, enfin.
C'est tout ce qu'on souhaite au club d'Hébreux en tous les cas. Mathieu, aujourd'hui tu es consultant, on le disait en préambule, sur Prime, sur RMC Sport. On a entendu parler de toi à Saint-Etienne il y a peu. Tu restes proche d'Hébreux évidemment, qui est le club où tout a commencé. Tu trouves ton équilibre aujourd'hui? C'est aussi ta manière de suivre le foot, de rester évidemment dans le milieu?
Oui, ouais, franchement je prends beaucoup de plaisir. J'ai la chance d'être très occupé. Voilà, quand tu arrêtes ta carrière de footballeur, c'est jamais évident. La plupart savent pas trop ce qu'ils vont faire, comment enchaîner, comment rebondir. Moi, j'ai eu cette opportunité-là de faire consultant les dernières sur la Téléfoot. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée rapidement, mais j'ai rencontré des journalistes de haut niveau, des consultants avec qui j'avais joué une partie de ma carrière, donc c'était que du plaisir. Et cette année, voilà, ça continue. Tu vois, ce week-end, j'ai été à Saint-Etienne, donc tu revois des mecs avec qui t'as joué. Hier, j'étais à Monaco pour Monaco Paris, donc je voyage, je fais des matchs tous les week-ends, c'est magnifique quoi aussi. Alors avant je devais courir, me lever, là maintenant je commande ceux qui courent, donc c'est un métier différent, mais encore une fois beaucoup de plaisir.
Eh bien, le plaisir était partagé en tous les cas, et si je peux me permettre à titre un petit peu plus personnel, Mathieu, sans aucune hypocrisie, j'ai beaucoup de respect évidemment, d'admiration aussi pour Mathieu. C'est un exemple de parcours aussi pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, et je le pense sincèrement, un exemple de parcours, un exemple d'humilité. Il a beaucoup redonné au foot ce qu'il lui a apporté, Mathieu, c'est assez rare quand même, son histoire avec Hébreux. C'est aussi encore une fois un exemple à suivre pour celles et ceux qui réussissent dans le foot aujourd'hui et qui ne doivent pas oublier demain d'où ils viennent. Voilà, merci beaucoup Mathieu d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Quelle culture foot, hein, c'est quand même incroyable. On boit du petit lait quand on t'écoute, quel que soit le média.
Bah, je sais, après, tu me connais un peu, je regarde tous les matchs. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, le match de Gambar, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller le voir, parce que vous risquez de voir quelques joueurs qui seront à la télé dans quelques mois.
Et on aura forcément un œil sur cette Gambardella. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans un prochain débrief. Merci infiniment, Mathieu. Au-delà du plaisir partagé avec Mathieu Billot de Foot Normand de t'avoir accueilli dans le débrief, personnellement, voilà, ça rappelle tellement de souvenirs, hein, de Caen à Lyon en passant même par Saint-Sever. Que de souvenirs, Mathieu, n'est-ce pas?
Ouais, j'ai gagné ton tournoi, oui.
Quintuple vainqueur, hein, c'est pas arrivé souvent. Hein. C'est des souvenirs incroyables, mais déjà à l'époque.
J'avais des équipes de tricheurs aussi, il faut dire la vérité, je jouais avec des pros.
C'est vrai. On n'a pas oublié la New Team à Saint-Sever. On s'en rappelle encore comme si c'était hier. Et depuis 25 ans, que de souvenirs partagés en commun. Merci infiniment, Mathieu.
Merci à toi.
À très bientôt, merci, et plein de bonnes choses pour la suite dans le milieu du foot, pour toi personnellement, pour les Fistons et pour le club d'Hébreux, dont on reparlera évidemment aussi dans le débrief. À très bientôt, Mathieu. Voilà, Mathieu Billot, cette fois Foot Normand. Voilà, c'était un très bon moment de partage avec un passionné du foot, avec un passionné aussi du Stade Malherbe, qui n'a pas oublié que tout avait commencé ici aussi pour lui dans le milieu professionnel.
Oui, tout à fait, et puis quelqu'un qui s'y connaît extrêmement, qui connaît bien tous les joueurs, la preuve avec la Gambarde, hein, je pense pas qu'il y a beaucoup de consultants qui connaissent, qui seraient capables de citer quasiment l'équipe de Gambarde. Voilà, donc bon voilà.
Mais c'est comme ça pour tous les clubs, c'est oui, la Ligue 1, la Ligue 2, les matchs de jeunes.
La preuve avec Rennes aussi, déjà, il a déjà cité des noms de joueurs, on va dire, qu'il faudra surveiller avec attention du côté rennais. Donc voilà, bon, c'est voilà, il y a des... Comment on pourrait dire ça, des phénomènes, des extraterrestres comme ça. Voilà, donc voilà, j'avais eu la chance de faire aussi une interview à l'écrit avec Mathieu Bonnemer, et j'avais repris cette petite citation de son collègue d'RMC, Julien Cazard, qui était assez drôle, voilà, donc qui retrouvait tous les joueurs et tout, donc c'est plutôt pas mal.
Et Caen est 7e de Ligue 2 après sa victoire dans le derby. Les Canets sont 7e avec 39 points et reviennent donc à 2 petits points de leur adversaire normand, Le Havre, qui lui en compte 41. On va continuer à en parler évidemment de ce club du Havre dans la suite du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Ne touchez à rien.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.